Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédia en compagnie de Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Floriane.
Alors Jean-Yves, on a un programme pas très original cette semaine, mais quand même bien chargé, vous allez voir. Notre image de la semaine, ce sera un petit commentaire sur quatre journalistes qui ont commenté en même temps, mais sur plusieurs plateaux, les élections municipales. Et vous allez voir, ils appartiennent tous à la même famille, c'est ce qu'on appelle une caste, je crois. Et puis, notre dossier du jour reviendra plus globalement sur ces élections municipales, avec quelques points sur des cas particuliers. Si le programme vous plaît d'ores et déjà, n'oubliez pas de l'agrémenter du pouce en l'air, c'est très important pour le référencement et l'algorithme de YouTube. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous comme vous en avez l'habitude. Je vous lis d'ailleurs et j'essaye de vous répondre dans la mesure du possible. Et puis bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis vous pouvez aussi partager la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. L'image de la semaine, je vous le disais, quatre journalistes donc. Nous avons Alain Duhamel qui est éditorialiste sur BFM TV qui commentait les municipales. Nous avons Patrice Duhamel, son frère, qui est journaliste qui commentait les municipales. Il était lui sur LCI. Nous avons Benjamin Duhamel qui est journaliste et qui commentait les municipales. C'était sur France TV. Et puis nous avons sa maman, la femme de Patrice Duhamel, Nathalie Saint-Cricq, qui est journaliste et qui commentait les municipales. Alors, dans 5 ans, Jean-Yves, il y a un article du Figaro, du Gorafi,
oui,
pardon,
c'est le petit Matteo Duhamel, 3 ans, qui va être recruté par Gulli pour commenter les prochaines élections.
Ça manquait un peu de Duhamel en même
oui,
temps.
Hein.
Voilà. Bon, il n'y a qu'en France, je crois, qu'on peut voir une configuration pareille, une caste familiale pareille. Et à la fin d'Immédia, vous retrouverez le portrait de Benjamin Duhamel réalisé en partenariat avec Logim et Claude Chollet. C'est une rediffusion, mais vous allez voir, il aborde déjà le jeu des 7 familles, un peu avec les Duhamel. Place maintenant à notre dossier du jour. Jean-Yves Le Gallou, pour notre dossier du jour, eh bien, on va commencer un peu par quelques chiffres, par quelques graphiques même. Un premier graphique de Marc Vanguard sur la percée du RN et de LFI au municipal, voilà, il est affiché pendant qu'on parle. Je vous laisse faire un commentaire peut-être, parce qu'il a l'avantage de comparer deux élections semblables.
Voilà, alors, c'est très simple dans les élections, dans les soirées électorales, on sait qui a gagné et qui n'a pas gagné en fonction du moment où les gens prennent la parole. Et là, en l'occurrence, Jordan Bardella a pris la parole dès 8h pour se féliciter des bons résultats obtenus dans la France périphérique, ce qui explique qu'il pouvait parler dès 8h, puisqu'il avait les résultats de bureaux de vote qui avaient fermé entre 6h et 7h du soir. Et puis, une heure plus tard, on a eu Manuel Bompard de LFI, qui a pris la parole pour se féliciter des bons résultats de LFI, avec effectivement un retard d'une heure, puisque les bons résultats de LFI, c'est dans les métropoles où les bureaux de vote ferment plus tard. Voilà, c'est très simple. Et puis, les autres, on les a pas vus tout de suite parce qu'ils n'avaient pas de bons résultats à commenter et ils attendaient des résultats, souvent incertains. Donc, c'est assez simple. Il y a eu une poussée de LFI malgré ou à cause de la diabolisation de LFI dans la France des métropoles, et il y a eu une poussée du RN dans la France périphérique. Voilà, c'est très simple.
– Oui, ils ont gagné donc une dizaine de points en 5 ans, enfin en 6 ans.
– 23 élus au premier tour, oui. Et une assez bonne percée, plutôt dans leur bastion, c'est-à-dire toute la côte sud de la France et puis le Nord-Pas-de-Calais, voilà.
– Exactement. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur ce graphique de l'AFP, hein, que je vous diffuse également. Alors il y a le Parti Socialiste qui n'a pas bougé, hein, il est resté tel quel. nouvelles à faire, à suivre évidemment pour le second tour de ces municipales. Peut-être un petit commentaire de Patrick Cohen qui revient sur les chiffres et lui, vous allez voir, emploie une méthode assez différente de la comparaison entre mêmes élections.
En banlieue parisienne, à Créteil chez Clémence Guettet, à Vitry chez Mathilde Panot, à Évry avec Farida Amrani, ville-préfecture que convoitait LFI, à Paris 18e avec Daniel Obono. Dans tous ces lieux, LFI perd en voix et en pourcentage par rapport aux européennes de 2024, scrutin où la gauche était en liste séparée, ce qui est un bon point de comparaison, sans parler de la présidentielle de 2022, on l'a oublié, où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête à Toulouse, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Lille, Rennes, Le Havre, Grenoble, ce qui n'est pas du tout le cas de ces candidats aujourd'hui, mais avec leur score entre 10 et 15%, ces candidats LFI jouent les perturbateurs dans un grand nombre de métropoles.
Jean-Yves, est-ce que toutes les élections se valent vraiment ?
Mais on ne compare, c'est une règle de la science politique élémentaire, on compare une élection à l'élection précédente comparable. C'est-à-dire que vous comparez les municipales aux municipales, les présidentielles aux présidentielles et les européennes aux européennes. Comparez les municipales qui sont un scrutin local, majoritaire aux élections européennes, ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, quand M. Cohen parle avec sa mauvaise foi, sa malhonnêteté habituelle, parce qu'il doit le savoir quand même ce que je dis, vous voyez M. Pirino, qui est quand même politologue, qui est invité sur le plateau, il fronce les sourcils. Il fronce les sourcils parce qu'il se dit, mais quelle sottise. Voilà.
Alors, il y a un point qui a été abordé également dans la presse, c'est le camp macroniste qui s'attend à ne gagner aucune grande ville. Et il y a ce commentaire qui est repris par Le Parisien, tout ce qui touche à Macron perd, les gens nous détestent. Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire aussi sur les déceptions des macronistes.
Ils n'ont plus d'espace.
Ouais.
Voilà.
Alors, il y a une autre commentatrice, c'est Isabelle Saporta, qui fait une analyse assez intéressante et je vous propose qu'on l'écoute.
Non, mais c'est la Nouvelle France contre la France Blanche.
C'est même un peu démago. Mais enfin, bon.
Bah, c'est démago, mais
on va relativiser par là, quoi.
La partition idéologique, elle est là, Jean-Michel. On va pas faire semblant de pas voir. C'est la Nouvelle France contre la France Blanche. Donc, ce qui s'installe là, c'est le débat, excusez-moi, de la présidentielle.
La Nouvelle France contre la France Blanche. Alors d'ailleurs, la Nouvelle France, Jean-Yves, avant de vous redonner la parole, c'est une expression qui est totalement labellisée par LFI, si je puis le dire ainsi. Et je vous propose qu'on regarde la vidéo des élus qui l'emploient déjà lors des résultats des élections municipales.
Et dans une semaine, la Nouvelle France rentre au beffroi.
La Nouvelle France est entrée en scène.
La Nouvelle France a pris sa place sur la scène politique marseillaise et elle ne s'arrêtera pas là.
La journaliste Isabelle Saporta, épouse par ailleurs d'un des dirigeants des écologistes, Yannick Jadot,
je sais pas s'ils sont mariés, mais oui,
reprend le slogan de LFI, parce que c'est pas la Nouvelle France, c'est la France issue de l'immigration et souvent, malheureusement, de l'immigration inassimilé, voilà. Mais c'est de la novlangue, c'est de la novlangue, et elle l'oppose à la France blanche, qui là est un terme
un peu cru,
mais qui correspond aussi à une certaine réalité. Et c'est vrai que dans les urnes, on voit la poussée de LFI dans les métropoles, avec un électorat bobo, mais aussi un électorat immigré, et la poussée dans les urnes du Rassemblement national dans la France périphérique, où c'est effectivement la France, selon les mots de Mme Saporta, la France blanche. Ce qui est assez intéressant chez Mme Saporta, c'est qu'elle parle comme ça de la Nouvelle France, très bien, mais elle nous a dit il y a quelques semaines que pour la scolarisation de ses enfants, elle choisissait l'école privée parce que quand même les petits, il faut les protéger.
– Exactement, alors elle est revenue en chronique sur RTL parce qu'elle fait les éditos sur RTL sur cette France coupée en deux face à une gauche insoumise qui n'essaye même plus de combattre cette idée de grand remplacement mais qui fait cette idée sienne. Un petit point sur les stratégies maintenant des hommes et des femmes politiques et je vous propose par exemple d'écouter Madame Marlène Schiappa. Alors elle ne s'exprime pas en tant que femme politique dans cette séquence, vous allez voir, mais c'est quand elle était invitée, enfin participante de l'émission du jeu Les Traîtres sur M6. Mais vous allez voir, son propos est très intéressant.
il faut que je passe en mode robot, débat, self-control. Je ne réponds à aucune question. Élément de langage, le gouvernement reviendra vers vous ultérieurement. Je ne dis rien, je ne réponds à rien. Et là, je commence à me conditionner moi-même. T'es en plateau de BFM TV face à un opposant un soir d'élection que t'as perdu et tu dois expliquer que non, c'est pas vraiment une défaite parce que j'ai compris le message des Français, etc. Donc je passe en mode langue de bois, pardon, hein, mais j'ai un mode comme ça qui est activé depuis 20 ans. Il existe ce mode et je peux le faire on-off. Je me dis, réponds jamais, réponds à rien, embrouillé, etc.
Arrête, arrête, les Français vont être débectés là.
Et je me dis, non, ils vont rigoler.
Ils vont jamais revoter pour personne.
Je suis candidate à rien, je m'en fous.
Je suis candidate,
à rien. Ah bah, elle est sur la liste de Madame Dati.
Oui.
Voilà.
Bon, c'était un propos ultérieur à sa candidature, naturellement.
Ultérieur et antérieur.
Et antérieur, antérieur, ouais, antérieur, oui. Enfin, c'est intéressant de voir que, visiblement, c'est une logique politique, mais aussi journalistique. Alors, c'est partagé.
Ce qui est vrai, c'est que rien n'est plus difficile dans une soirée électorale que d'être bon quand les résultats sont mauvais. Ça, c'est difficile. Et la langue de bois, ça ne marche pas très bien. Voilà.
C'est le pipeau-tron en marche. Alors, on a un autre homme politique cette fois-ci, vous ayant fait la parité dans les médias, qui s'exprime sur la stratégie du second tour cette fois-ci. Et vous allez voir, c'est Jean-Luc Mélenchon, on l'écoute quand il était en meeting à Bondy le 4 mars dernier.
Ils disent, au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord. Alors, tout le monde entend, ah, ils rompent l'accord. Penses-tu ? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour.
Alors, il parle du Parti Socialiste, bien sûr.
Il parle du Parti Socialiste. Alors, il faut reconnaître, une des forces de Mélenchon, c'est le parler vrai, c'est le parler cru. Car ça ne se dit pas, c'est des combinards, on va les acheter. Ben, lui, il le dit, et il les achète. Il les achète. Alors,
à Marseille, ça a été un peu plus compliqué. Si je puis me permettre de revenir sur ce cas particulier local, puisque Benoît Payan donc reste en lice. Naturellement, il y avait la liste de Monsieur Sébastien Delogu qui était en face. Et alors carrément, ils n'ont pas tenté les combines là cette fois-ci. Hein. Ils ont tenté la manifestation devant le local de Benoît Payan. La manifestation intimidation un peu parce que c'était à grand renfort de pouet-pouet, de klaxons, de hurlements en tout genre. Et pendant ce temps-là, également, ils ont fait une manifestation devant l'hôtel de ville de Marseille. Donc, quand c'est pas la combine, c'est l'intimidation. C'est un peu une prise d'otage antidémocratique qu'ils ont tenté de faire, la LFI. Jean-Yves, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors, il y a la pression. Finalement, ils se sont retirés. Alors, c'est assez intéressant, le cas de Marseille, parce que le résultat n'est pas très bon pour LFI. Et pourquoi le résultat n'est pas très bon pour LFI ? Parce qu'une partie des banlieues de l'immigration sont clientélisées par M. Payan. Et on peut penser que le retrait de LFI, qui est une exception à Marseille, dans la mesure il n'y a pas de fusion, mais il y a un retrait, c'est peut-être aussi parce que les dealers, les narcotrafiquants préfèrent garder une mairie socialiste à risquer d'avoir une mairie RN. Donc Marseille, c'est un peu un cas tout à fait particulier.
À Toulouse, LFI toujours et bordel encore. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Dépêche du Midi. Il déclare ceci. Face à la bordélisation des insoumis à la métropole, les usines Airbus et les emplois aéronautiques fileront à Hambourg ou ailleurs. Et alors là, Jean-Yves, c'est gravissime parce que ça veut dire que l'apport LFiste va complètement démanteler le tissu économique local.
Alors,
c'est ce qui est expliqué dans l'article de la Dépêche du Midi.
Toulouse, enfin, la région de Toulouse est une grande zone de puissance de l'industrie française, un des rares domaines où l'industrie française reste puissante. Spatial, l'aviation, etc. Et alors, c'est assez intéressant de voir que la Dépêche du Midi, dirigée par M. Baillet, socialiste de gauche, cette fois, prend position pour le maire sortant centriste, M. Boudinque, face au risque économique pour la métropole toulousaine. Donc, c'est une ingérence directe de la presse locale dans la politique, mais ça, on y est habitué, mais pas tout à fait. Dans le sens habituel, dans ce cas particulier.
Place maintenant à un point particulier de ce premier tour des municipales. C'est bien sûr le propos en off, mais pas off, de Nathalie Saint-Cricq, que je vous propose de réécouter.
Merci beaucoup, Alexandre Perrault. Je vous interromps. On va écouter en direct Éric Ciotti en tête à Nice.
Mathias Benito. Éric Ciotti alias Benito. Alors dans un premier temps, la journaliste qui tenait ce propos, bon, Nathalie Saint-Cricq, on reconnaît la voix, nous qui avons l'habitude, mais n'a pas été dénoncée tout de suite. France Info a fait un tweet d'excuses à Éric Ciotti pour un propos, je cite, inapproprié et déplacé, prononcé sur leur antenne par une journaliste, ils ne disent pas laquelle, mais bon, elle s'est vite dénoncée elle-même parce que visiblement elle a reçu ordre de s'excuser elle-même. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on écoute les excuses.
Nathalie Saint-Cricq, vous vouliez nous faire une petite mise au point avant qu'on parle de Marseille.
Alors, je voulais présenter mes excuses à Monsieur Ciotti. J'ai tenu tout à l'heure à l'antenne, juste avant son intervention, des propos qui étaient inappropriés et déplacés, qui relèvent d'un manque de discernement de ma part. Donc, je présente mes excuses ainsi qu'aux téléspectateurs.
Merci à vous. Allez.
Allez, allez, on y va.
Alors, elle est quand même punie d'une semaine
oui.
De privation d'antenne. Pour quelle raison ? Pour éviter à la chaîne d'être condamnée par l'ARCOM, on anticipe les choses et on dit, allez, on l'a privée d'antenne pendant une semaine.
Une semaine, bon, c'est pas trop méchant.
Elle est punie. Alors, bon, objectivement, moi, je ne trouve pas ça très grave. C'est un sobriquet dont, paraît-il, est affublé M. Ciotti à l'Assemblée nationale, qui est un sobriquet à la fois qu'on pourrait prendre comme scandaleux et qui est plutôt humoristique. Moi, j'y vois surtout, et c'est ça qui m'inquiète, un côté chauvophobe, si vous voulez. On reproche à M. Ciotti son crâne chauve
super,
qui fait rappeler Mussolini. Ça, je crois que c'est plus grave. La chauvophobie, il ne faut pas rigoler avec ça.
Hein. Je ne suis pas certaine que ce soit exactement le sens du propos. Finalement, ça a l'air d'être une habitude dans la bouche de Nathalie Saint-Cricq parce que ça sort assez naturellement. D'ailleurs, il y a une autre séquence que je ne vous passe pas, mais durant laquelle elle chuchote en pointant du doigt une des candidates LFI en disant « C'est qui la petite ? C'est qui la petite ?» Et alors, il y a des articles de journaux qui disent qu'elle a stigmatisé cette pauvre candidate qui s'appelle Imane Hamel par sa taille. J'ai trouvé ça assez
fou. Ça devient, honnêtement, ce genre de chasse aux sorcières, moi je condamne les chasses aux sorcières quand elles s'appliquent sur des tweets ou des posts du 25e candidat du Rassemblement national à remontant les deux oies. Donc je le condamne ça, mais je condamne aussi la chasse aux sorcières. Il faut laisser un peu de liberté.
Ce que je trouve assez désagréable, c'est que les excuses qu'elle déclare, elle est en train de les lire, clairement. C'est totalement insincère dans sa bouche et mais ça se voit.
C'est les formulations obligatoires.
Oui.
C'est un propos inapproprié.
Elle est en train de lire le SMS du directeur qui lui a envoyé. Enfin, c'est assez ridicule. Cette affaire.
Mais c'est pour l'ARCOM.
Bien sûr.
Indirectement, c'est le sens de l'ARCOM. Or, l'ARCOM, elle empêche la vie d'un certain point de vue. Parce que, bon, dire ça, c'est la vie, quoi. Voilà.
Un point sur le cas Saint-Denis maintenant. On continue, Jean-Yves, nos points sur les municipales.
Ah oui.
Alors, c'est la liste de Bali Bagayoko qui a remporté l'élection du premier coup, dès le premier tour, puisqu'il a été élu avec 50,77% des voix. Bien sûr, c'est un candidat LFI. Alors, 50,77% des voix, ça représente seulement 13 506 voix, selon les derniers décomptes du Monde. Il faut noter quand même que c'est une ville de 150 000 habitants, Saint-Denis. Donc c'est à peine un dixième des voix qui ont été mobilisées pour élire ce candidat. Un premier commentaire sur ce point
particulier. Oui, mais d'abord, dans ces 150 000 habitants, il y a un certain nombre de clandestins, il y a un certain nombre d'étrangers, un grand nombre même, et il y a une population assez jeune. Donc déjà, ça limite fortement le nombre de votants. On pourrait faire un deuxième commentaire. C'est que l'écart qui permet la victoire au premier tour, c'est 0,76% des voix. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit coup de main donné dans les urnes? On peut aussi se poser la question. Voilà.
Difficile à dire.
Difficile à dire, mais.
Semblerait-il, c'est surtout question. Que les dealers, c'est ce qui se dit un peu en off dans le monde journalistique, c'est que les dealers auraient mobilisé pas mal d'électeurs en leur disant allez voter pour Bali Bagayoko.
Baya, oui, absolument.
Bon, alors.
Ils contrôlent les quartiers. Donc, ils ont de l'influence sur les gens.
Exactement. Hein,
voilà, il y en a qui assument
même
gens,
la sécurité localement.
Ils font peur aux gens, et donc si on dit aux gens, bah, allez, tu vas voter, ils vont voter. Voilà,
peut-être
ça.
Cette photo emblématique pour résumer la situation d'une certaine façon de Manon Aubry, le poing levé avec Éric Coquerel, le ventre entièrement sortant, oui, avec leur candidat de Saint-Denis. Alors, il y a eu.
Qui
une
va
petite...
les remplacer, qui va les grands remplacer, voilà. Oui.
Et justement, il y a eu une petite polémique sur le premier duplex de ce candidat, sur ce qu'on entend réellement. Et je vous propose qu'on écoute son duplex avec Darius Rejbain, qui, vous allez voir, est quand même tout sourire en l'interviewant.
Tout à l'heure sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que, évidemment, Saint-Denis, c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais les c'est rois, aussi la ville où...
Rois. La ville des rois et du peuple vivant.
C'était ma question.
Alors... En fait, et on a l'impression d'avoir une hallucination auditive, c'est peut-être vrai, on ne peut pas trancher à l'heure
honnêtement,
actuelle, mais on a l'impression qu'il dit la ville des Noirs. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression qu'il a pu le dire. Et déjà, ça, c'est grave, parce que LFI nous a habitués à ça, en fait.
Honnêtement, moi, je trouve qu'on entend aussi bien la ville des Noirs que Benito, la ville des Noirs, dans le propos de M. Baya, que Benito dans le propos de Mme Saint-Cricq, hein, franchement. Et après, alors effectivement, il dit le peuple vivant, il y a la ville des rois qui sont morts et du peuple vivant, c'est-à-dire les gens venus d'ailleurs, c'est presque pire. C'est presque pire. La notion de peuple vivant qui serait le peuple venu de l'étranger, c'est presque pire que la ville des Noirs.
Alors, en tout cas, Apolline de Malherbe a repris ce propos de la ville des Noirs que beaucoup de gens ont quand même, semble-t-il, entendu.
Entendu, on n'a pas le droit de l'entendre, en fait. Voilà.
Mais voilà, ça a été dénoncé comme scandaleux. Il y a même des élus qui ont appelé l'ARCOM à la sanctionner. Tant et si bien que Apolline de Malherbe a dû s'excuser en disant qu'elle avait mal entendu ses propos parce qu'il y avait du brouhaha lors du duplex et qu'il avait pu s'expliquer à son micro sur RTL dans l'interview du matin. Alors, peut-être qu'il a dit ça, peut-être qu'il n'a pas dit ça. Je vous propose de regarder une vidéo, en tout cas, de ce qu'il a fait. Et ça, personne ne pourra le contredire. On a
il y a le bras d'honneur, il y a le...
Il saute en l'air.
C'est parfait.
Oui. Bon, c'est une célébration.
C'est quoi c'est la Nouvelle France, c'est ça?
Oui, c'est la Nouvelle France.
D'accord, voilà.
C'est une célébration un peu clanique.
C'est tout à fait clanique, tout à fait ethnique, voilà.
On dirait qu'on le transporte sur sa chaise à porteur.
L'ethnique l'emporte sur le politique.
Et pour conclure ce dossier du jour, un point très local et faussement géopolitique, vous allez voir, c'est Charles Hitler qui est arrivé en tête au premier tour des élections municipales à Arcis-sur-Aube face à un candidat du nom de Zielinski. Bon voilà, ça a beaucoup amusé les internautes et ça a fait énormément d'articles assez amusants dans la presse, bon même si ça ne reflète
pas la réalité. Ça fait peur quand même, ça fait peur.
C'est Charles Hitler qui gagne.
Apparemment, Charles Hitler risque de gagner.
Il a franchi le point Godot.
Oui, ça fait peur.
Place maintenant au pastille de l'information, si vous le voulez bien. Et on commence nos pastilles de l'information avec ce que je vais appeler désormais un running gag de la part des journaux de gauche qui continuent avec ce suivi absolument millimétré et à la loupe des brebis galeuses du RN, c'est-à-dire tout ce qu'ils appellent trop nazi, trop complotiste, trop extrémiste, trop homophobe, trop... On ne sait même plus. Alors, l'article de Street Press, quand même, il faut noter que je ne l'ai pas lu. Pour la raison suivante, ce que je vous affiche à l'écran, c'est que pour lire l'article, il fallait impérativement rentrer son adresse mail. C'est complètement fou si on réfléchit en termes de dons, de données que cela représente. Vous en penserez ce que vous voulez, mais j'ai trouvé ça proprement scandaleux. Jean-Yves, un petit commentaire. C'est Mediapart aussi qui prépare là un gigantesque documentaire sur le vrai visage de l'extrême droite qui va paraître juste avant la présidentielle pour la modique somme de 500 000 euros.
S'agissant de ce que vous avez appelé le running gag, ça a complètement fait flop. Alors, il y a des dizaines de journalistes subventionnés qui ont traqué le 15e, le 60e de liste dans telle ou telle ville. Ça a complètement fait flop. Les électeurs s'en moquent et ça n'a absolument pas handicapé les listes en question. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple. Quelqu'un qui n'aurait jamais pu obtenir l'investiture du Rassemblement national compte tenu de son engagement militant préalable, c'est Jean Udgana, qui a construit une liste tout seul à Ségré. Et il a fait pour la première fois 22% des voix. Et je peux vous dire qu'il aurait été candidat Rassemblement national, il aurait été une cible permanente. Et en fait, les électeurs s'en moquent. Voilà.
C'est ça qu'il faut retenir. Il a rentré 7 personnes au conseil municipal.
Il a rentré 7 personnes au conseil municipal. Mais on pourrait citer beaucoup d'autres exemples où les électeurs s'en moquent. Voilà.
Le débat du second tour des municipales à Paris fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux parce que figurez-vous que BFM a organisé un débat avec seulement Madame Dati et Monsieur Grégoire. Alors c'est incroyable et on a l'impression qu'ils ont oublié d'inviter Madame Chikirou. Alors évidemment Jean-Luc Mélenchon s'en est fortement ému sur les réseaux sociaux. Son poste a fait plus de 1,2 million de vues tout de même et même Dati a critiqué cette absence de Madame Chikirou dans le débat, tant et si bien qu'à la fin, cela a basculé. Je vous propose d'écouter le propos de Mme Dati très rapidement.
Moi, je déplore que Mme Chikirou ne participe pas à ce débat. On parle de démocratie. Pour le premier tour, ils voulaient tout le monde et là, ils ne veulent pas tout le monde. Voilà, je crois que M. Grégoire a indiqué qu'il ne voulait pas que Mme Chikirou participe à ce débat.
Donc c'est lui qui dicte ses conditions ?
Voilà, donc moi, je trouve que c'est assez démocratique que ceux qui vont incarner... en ce qui me concerne, l'alternance et le changement puissent participer, mais ceux aussi qui doivent répondre de leur bilan.
Alors, cette espèce de contrôle de M. Grégoire sur BFM.
Alors, elle est assez drôle, parce qu'elle a refusé de participer elle-même au débat du premier tour, mais en l'occurrence, et elle a intérêt à ce que Mme Chikirou soit là, ou Chiricou, je ne sais plus, soit là, mais démocratiquement... Il y a trois listes, c'est normal que le débat ait lieu entre les trois listes. Alors là, il n'y a pas photo, ça c'est sûr.
Emmanuel Grégoire s'est présenté pendant toute la campagne comme le candidat du dialogue, du débat et de la démocratie, donc c'était totalement lunaire. À noter tout de même, bon ça n'a rien à voir avec BFM TV, mais que M. Emmanuel Grégoire siège au conseil d'administration de France Télévisions, et comme tous ces milieux journalistiques quand même vivotent et barbotent globalement ensemble, bon, vous ferez des liens ou vous n'en ferez pas, chers téléspectateurs, mais c'était une information importante à vous faire parvenir. À noter d'ailleurs que du coup, il est responsable de la réélection de Mme Ernaut pour son troisième mandat à la tête de France Télévisions. Bref. Le périscolaire à Paris est victime d'un omerta absolument incroyable sur des viols et des agressions sexuelles sur les enfants. Sylvain Maillard là vient de révéler que sur 200 agents mis en cause, semblerait-il, recrutés dans le périscolaire de la ville de Paris, 75 sont poursuivis actuellement pour viols et agressions sexuelles sur des enfants. Quasiment personne n'en parle. Bétarame, ça avait fait la une partout.
Bétarame, qui était une affaire évidemment condamnable, mais très ancienne, a fait la une.
Des semaines que personne ne prend la patate chaude. On dirait que c'est de la faute de personne. Pourtant, il me semble qu'il y a des adjoints à la petite enfance qui sont socialistes. Voilà.
Ça prouve à quel point les médias biaisent la réalité, biaisent la présentation du réel, en mettant en grande évidence des faits condamnables, mais anciens, et en occultant des faits tout aussi grave, tout aussi condamnable, mais plus massif et plus récent, c'est vraiment une distorsion totale du réel.
C'est ça aussi l'école publique. Hein. Ce sont les animateurs du périscolaire sous-recrutés, donc des risques de viol sur nos enfants. Enfin, c'est extraordinaire. Enfin, ce sont des vies de famille qui basculent. Un petit enfant qui rapporte un viol à l'école, ce n'est pas ça qu'ils sont censés retenir de l'école publique. Mais malheureusement, à Paris, c'est une affaire qui ne dérange pas grand monde pour l'instant. 20 minutes va au secours du Tasty Krusty. Vous savez, c'est le repas de la Nouvelle France, le Tasty Krusty. Nouvelle France, hein, bien sûr, entre guillemets. Et je vous propose de regarder peut-être rapidement le petit reportage qu'ils ont fait.
Un créateur de contenu parisien, connu pour ses contenus food sur TikTok et Instagram, a décidé de s'attaquer au phénomène du moment, le Tasty Krusty. Verdict.
Bah c'est dégueulasse.
Les tests qui croustillent, excuse-moi, mais il n'y a rien qui croustille. Hein.
Des mots durs pour le plat qui connaît un succès incroyable dans toute la France. La recette est très simple, du riz, du poulet, des sauces et des oignons crispies sur le dessus et aucune ambition d'étoile au Michelin. Si la vidéo d'origine a disparu de TikTok, la chaîne de restauration rapide a décidé de répondre en vidéo aux créateurs de contenu.
On a pris en compte leurs critiques, même si elles étaient un petit peu violentes. Et pour eux, on a créé le crousti savoureux à seulement 38 euros. On a appelé un grand chef étoilé pour confectionner la recette. On y a passé tout le week-end et vraiment, c'est du lourd. J'ai hâte d'avoir vos retours parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous aimez vraiment les bonnes choses et là, on a fait de la qualité pour vous.
Un buzz qui a profité à l'enseigne au lieu de lui nuire.
Alors, 20 minutes parle d'un succès dans toute la France, dans toute la Nouvelle-France peut-être, et surtout, ils ne reviennent pas sur le terme de « on a fait de la qualité pour vous ». Enfin, pardon, mais ce journal est en train de faire la promotion de la malbouffe tranquillement et ça ne dérange personne. Quel est le but en fait? On veut des personnes obèses partout en France?
De toute façon, ça fait partie du changement culturel. Voilà, la population change, les mœurs changent, les coutumes alimentaires changent, voilà, c'est le grand remplacement.
Mmh. On rappelle qu'un candidat aux élections municipales avait quand même fait la promotion de sa campagne avec le Tasty Krusty.
Oui. Bah, il visait une certaine clientèle électorale. Voilà.
C'est vraiment les pubs de la canne, quoi. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette édition d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. Jean-Yves, on ne laisse pas nos téléspectateurs sans le portrait piquant du Benjamin.
Du Benjamin.
De la famille
du Benjamin, ça doit être le papa de Mathéo qu'on va bientôt voir sur Gulli.
On espère, on a hâte en tout cas de surveiller ce petit prodige, sans aucun doute, du journalisme. D'ici là, eh bien, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez laisser un commentaire, je vous le rappelle à chaque fois. Et bien sûr, on se dit à très vite.
Vous connaissez le jeu des sept familles. Nous allons jouer ensemble avec le jeune journaliste Benjamin Duhamel qui officie sur BFM TV. Nous commençons. Je demande le grand-père. Bonne pioche. Le grand-père, c'est Jacques Saint-Cricq, ancien président du quotidien La Nouvelle République du Centre-Ouest. Maintenant, je demande la mère. Rebonne pioche. La mère, c'est Nathalie Saint-Cricq, directrice du service politique de France 2 depuis 2012. Maintenant, je demande le père. Encore bonne pioche. Le père, c'est Patrice Duhamel, directeur de Radio France, puis France 2, puis des antennes de France Télévisions. Enfin, je demande l'oncle. Toujours bonne pioche. L'oncle, c'est Alain Duhamel, né au début de l'ère tertiaire et toujours actif sur les ondes comme sur les écrans. Diplômé de Sciences Po en 2017, Benjamin Duhamel avait souligné sa proximité avec Clément Méric, un jeune gauchiste tué dans une bagarre en 2013. Encore étudiant, il déclarait la main sur le cœur, ouvrez les guillemets, ainsi donc on peut mourir, non pour être, comme le dit le cliché journalistique, au mauvais endroit, au mauvais moment, mais précisément parce que le courage de l'engagement nous a commandé d'être ce que l'on est à chaque instant de la vie, à chaque heure du jour. Ainsi donc en France, on meurt de nouveau de politique, on tue en France pour crime de gauchisme. Fermez les guillemets, c'est beau, comme la conclusion d'une dissertation de Sciences Po, et c'est dans Libération, le 9 juin 2013. Benjamin trouve rapidement un bon stage, puis un emploi de pigiste chez RTL. Et RTL où officie son bon oncle, Alain Duhamel. Il ne restera qu'un an à LCI, où se trouve déjà Alain Duhamel, avant de filer chez BFM TV, où il va retrouver un autre chroniqueur qui a changé de paroisse. Je vous le donne en mille, c'est l'oncle Alain, toujours lui. Le monde est vraiment petit. Le 17 janvier 2023, il participe à un déjeuner de presse sur la réforme de retraite, en théorie confidentielle, avec Emmanuel Macron. Il reprend dès le 18 janvier et mot pour mot les éléments du langage présidentiel, parlant de victoire de l'irresponsabilité en cas d'échec de la réforme. Laissons le mot de la fin à Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image. Je cite. Je dis Duhamel le jeune pour qu'on distingue Benjamin Duhamel de Duhamel l'ancien, prénommé Alain. Fascinante dynastie à la Grimaldi. Pierre Bourdieu parlait de reproduction sociale. Benjamin Duhamel en est une illustration, grandeur nature. Passons le bonjour à sa famille.